18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Oh là, il fait nuit, ça y est, vous savez, c'est les conditions de l'hiver. Vous voyez pas là, ça y est, on approche là tout doucement. Le froid nous gagne, la nuit nous gagne, bref. Et on est là pour vous accompagner votre émission sur Beurre FM, Les Informés, de 18h à 19h30, et vous êtes de plus en plus nombreux. Allez, je vais ouvrir l'antenne avec vous. Au menu, au sommaire de cette émission de ce soir, nous allons revenir sur le clash dont tout le monde parle. Hanouna Boyard, le député et l'animateur de TPMP. Ça a boxé pas mal, hein. On diffusera l'extrait tout à l'heure et puis je viendrai vous dire tout finalement. D'un côté, vous avez Hanouna qui regrette ses propos. Il regrette pas tout, hein. Il regrette simplement les propos, c'est-à-dire de l'avoir insulté. Après le reste, il l'assume. Et puis le député LFI, le député Boyard, lui, il annonce porter plainte contre l'animateur de C8. Je voudrais vous entendre dès maintenant, d'ailleurs, au 01 53 48 3000, tout de suite. Anthony vous attend au standard pour qu'on en parle avec nous. Il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas sur Beurre FM. Est-ce que finalement, cette affaire-là, c'est une affaire classique? Ou est-ce que ça vous choque? Est-ce que Hanouna a été trop loin en l'insultant? Parce que vous verrez tout à l'heure sur l'extrait diffusé, c'est allé loin quand même. Deux seconds sujets que je vous propose. Vous savez, c'est ces signalements. 720 signalements au moins pour des atteintes à la laïcité ont été recensés dans les différents établissements, écoles, donc collèges et lycées, durant le mois d'octobre. Finalement, moi, c'est la question que je vous pose, cette question atteinte au principe de la laïcité. Faudrait qu'on en parle entre nous. Entre nous, vous, parents, jeunes, venir m'expliquer sur l'antenne de Beurre FM, dans Les Informés, ici même, qu'on en parle à bâton rompu, qu'on en parle tranquillement même d'ailleurs, qu'on mette les pieds dans le plat aussi. Vous, connaître votre point de vue, voir un peu comment vous vivez tout ça. Est-ce que vous en parlez avec vos enfants? Est-ce que vous avez des enfants lycéens qui ont décidé de se voiler ou de porter la ebaya parce que voilà, c'est tendance ou parce que c'est un choix assumé? Je voudrais qu'on en parle. Voilà, c'est les deux sujets que je vous propose tout de suite. Je vous attends au standard tout de suite. Là, maintenant, on démarre l'émission avec vous au 01 53 48 3000. À 18h50, comme chaque lundi, c'est l'avocat Maître Franck Serfati qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis qui reviendra sur un sujet d'actualité, le vivre ensemble. On en parlera avec lui tout à l'heure à 18h30. Et puis enfin, les débatteurs influenceurs avec Emmanuel Depuis, Jimmy Dalidou ou encore Nabila Takash viendront confronter leur point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention. Les migrants, un nouvel accord signé, à qui la faute? On reviendra sur ce sujet brûlant. On reviendra aussi sur les propos de Gérard Collomb qui lâche une espèce de bombe. Il dit « Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, Marine Le Pen aurait pu être élue. » Mais mon Gérard Collomb, il déclare la guerre à Emmanuel Macron, j'ai l'impression là, non? Sur le sujet de l'immigration. En gros, c'est ça Anthony. En gros, moi je comprends quand même. Tu m'as lâché. Eh ben je vais lancer quelques petits explosifs. Eh ben on en parlera tout à l'heure. Le carburant, chers amis auditeurs, faites attention, les prix vont monter, ils vont bondir de 30 centimes. On en parle. Est-ce que ça vous fait peur tout ça? Et puis enfin direction l'invasion en Ukraine, la guerre en Ukraine. Zelensky dit les Russes ont commis des atrocités à Kherson. On a l'impression que parfois que chacun se renvoie la balle. Bon, et ben on prendra le temps tout à l'heure de vous apporter tout l'éclairage possible ici même dans Les Informés, parce que parfois c'est compliqué et difficile à suivre, mais on en parle. Mais pour l'heure, je vous attends, le standard est ouvert, c'est parti, tout de suite, 01 53 48 3000, Les Informés, c'est maintenant, c'est tout de suite, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Le standard, je vous attends partout en France, venir justement vous saisir de votre téléphone et vous entendre nous livrer votre point de vue. Justement, la question qu'on pose, est-ce que Hanouna a été trop loin avec le député Boyard? Écoutez cet extrait, véritable clash, hein. Quand je vous dis c'est un clash, c'est un véritable clash. Écoutez, et on revient en parler. Attends, Anthony, attends, laisse-moi finir. Anthony s'empresse, là, comme ça, de lancer la machine. et on viendra. Et que justement, tiens, Zaya, bonjour Zaya.
Bonjour.
Comment ça va?
Alhamdulillah.
Vous nous appelez de quelle ville?
De 92.
Où ça, 92?
Bayeux.
Bayeux. Vous faites quoi dans la vie, ma chère Zaya?
Je travaille à la DGA, maintenant je suis à la retraite.
Bon. Alors, écoutez Zaya, on va écouter le clash pour ceux et ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton et on revient en parler ici même au 01 53 48 3000, je vous attends. Écoutez le clash.
D'accord.
Mais c'est pas, c'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République.
Mais arrête de dire un élu. Arrête de te la raconter, élu. Je m'en bats les couilles que tu sois élu.
Mais t'es responsable ou quoi?
Tu crois
que la liberté de la presse,
tu vas me parler mal? Tu crois que j'ai perdu toi ou quoi?
Mais moi j'étais
mon
délire.
Moi j'ai fait mon délire. Zemmour, il a fait cette. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi.
Vous rendez même pas compte.
Et vous parlez pas du sujet.
Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous.
Mais t'as voté pour moi, toi?
Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido, j'ai tous les jours au téléphone.
Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré?
Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule.
Non, mais t'es sérieux?
Dès que tu parles, il ferme ta gueule.
T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France. Et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne.
Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Pour les gens,
qu'est-ce que j'ai fait pour les gens?
Tout ce que je fais, moi, tous les jours.
Il y a 200 gamins qui dorment sous un pont à Ivry.
Moi, j'ai relogé plein de gens.
Qu'est-ce que t'as fait, toi?
T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing.
Alors, toi, t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants?
Non, mais t'es sérieux ou quoi? Tu prenais ton cachet, tu faisais le malin.
Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours et t'en fais ton métier.
Toi, ton métier,
tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur racisme.
Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité.
Vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme. Vous jouez avec le
Aïe. Faut qu'on en parle. Parce que l'animateur, est-ce qu'il a été trop long en l'insultant? Parce que clairement, là, on entend les gros mots, on entend les insultes fusées dans tous les sens. À l'égard de qui? N'oublions pas, un élu de la République. Il est député, le député Boyard. C'est pas comme ça un invité classique. Même d'ailleurs, quand on est un invité classique, on ne l'assomme pas d'insultes, normalement. Et ben, je voudrais qu'on en parle, franchement. Est-ce que Cyril Hanouna a franchi, évidemment, la ligne rouge? C'est-à-dire, est-ce qu'il a... Alors, il regrette, hein, attention. Il dit aujourd'hui, je regrette de l'avoir insulté, mais je ne regrette rien, tout le reste. Voilà. Parce que je défends mes amis, etc. Et ben, parlons-en. 01 53 48 3000, j'ouvre l'antenne, je voudrais qu'on prenne le temps d'en parler. Ça vaut le coup. Et puis, c'était sur C8, il y a quelques jours, vendredi dernier ou jeudi dernier, il me semble. Zaya, rebonsoir, Zaya.
Rebonsoir.
Alors, vous avez écouté l'extrait. Qu'est-ce que cela vous inspire?
J'ai entendu que, on dirait, tout le monde parle, j'ai rien entendu.
Mmh. On entend quand même les insultes.
L'expression du respect. Mmh. Normalement, on devait respecter chacun. Mmh. Si on ne respecte pas les gens, on ne respecte pas notre personnalité déjà.
Oui.
Moi, c'est ça pour moi. Je dis toujours à mes enfants, il faut respecter les gens plus adultes que vous. Depuis qu'ils étaient petits, alhamdoulilah, maintenant ils sont adultes. Ils sont riches. Ils respectent, ils sont respectueux et ils ont leur poste de travail. De là, très bien. Et tout ce qui se passe maintenant avec la baillette, avec le voile...
Là, vous parlez d'un sujet à l'autre. Donc, vous passez sur lui que j'ai proposé sur, les signalements de la laïcité.
Écoutez, normalement, on est en France. On respecte les écoles, on respecte les professeurs, on respecte le droit de l'inspection. Mmh. Et on ne va pas se voiler, on se montre, on danse, des danses, mmh. Et on se montre aux gens. Normalement, Noumara Mouhadjiba, avant, déjà, elle parlait, excusez-moi, peut-être maintenant c'est évolué. Dans le temps, la femme, elle ne parle pas de mon âge. Moi, quand je suis arrivée en France, après, j'ai travaillé et tout. Ce n'est pas la même chose que mon père. Mon père était un peu sévère. On ne sort pas. On nous a quitté l'école jeune. on va pas dehors. Les femmes qui restent à la maison, ils font les métiers de la maison.
Oui.
Ils font du tricot, de la couture.
Ah, mais c'est une autre époque. La société a changé, ma chère Zaya.
Maintenant, de ce qu'on voit maintenant, on se voile. On va à l'école avec le voile, non? Je suis désolée. On est en République française, on est allé dans une école laïque.
Donc, pour vous, il faut respecter effectivement les règles de la République, l'éducation nationale.
Voilà, la République, l'inspection de l'école. Et si on se voit, on ne va pas se montrer en danse dehors. Moi, ma fille qui va danser comme ça dehors, elle arrive à la maison, je vais lui faire une leçon. Si elle danse, elle se montre à tout le monde. Je sais pas où elle a dansé. Le monde entier l'a vu à la télé avec son voile. Et elle voulait y aller à l'école avec le voile. Et après, elle danse dehors. Moi, pour moi, ça, c'est pas une éducation musulmane. Je suis musulmane. Comment dirais-je?
Je voudrais entendre aussi tous les autres auditeurs au 01 53 48 3000. Nous vous attendons pour en parler. Pardonnez-moi, Zahir, sur ces deux sujets. Laïcité. Oui.
Je croyante et pratiquante depuis l'âge de 12 ans, je fais ma prière. Je ne l'ai pas lâché jusqu'à maintenant. Je suis à la retraite et on a respecté la religion musulmane. Et on met pas de voile, on met pas de foulard. Bon. On est élevé avec tout le monde. On a joué avec des filles françaises, on a joué avec des filles juives. On habitait dans un quartier en Algérie où il y a de tout le monde. Oui. On a joué tout le monde ensemble, on a été à l'école ensemble, il n'y a aucun problème. Maintenant, pourquoi on met toutes les religions? Chacun a sa religion et garde sa religion chez lui, pas à l'extérieur.
Bah écoutez, je serai le soin aux autres auditeurs, justement, de nous expliquer tout ça. Merci Zahia d'être intervenue. Évidemment. Merci à vous, merci. Voilà un témoignage, évidemment, bon, de deux époques différentes. C'est-à-dire que elle compare son époque à elle, évidemment, Zahia, avec celle d'aujourd'hui. Elle dit qu'on n'est plus du tout respectueux envers la République, envers cette devise. On en parle. 01 53 48 3000. La laïcité, puis le clash. Hanouna et le député Boyard. Tiens, je vais aller direction à Toulouse. Bonjour Farid. Bonsoir Farid.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Farid?
Alors, moi, je suis chauffeur VTC.
Oui. Ça se passe bien?
Ouais, il y a des hauts et des bas.
Des hauts et des bas. Faut se battre. Nous vous écoutons. Quel sujet vous voulez traiter? Le clash chez Cyril Hanouna, qui part évidemment... vous avez écouté l'extrait tout à l'heure que j'ai diffusé, ou celui de la laïcité. Je vous écoute. Bienvenue.
Exactement, ouais. Bon, Hanouna, ça fait des années qu'il est là. Lui, il revient de loin. Son patron, bien sûr, on le connaît tous. C'est normal, il défend son patron. Maintenant, il a fait manger quand même pas mal de gars. Donc, le critiquer comme ça, je trouve un petit peu dommage. Il s'est emporté, certes. Il s'est emporté, il a le sang chaud. Bon, mais après, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il a un petit peu dépassé la ligne rouge, certes. Mais bon, on va pas faire le coin plat. L'actualité, c'est quoi? C'est les gens qui meurent, qui traversent la Méditerranée, qui meurent, qui laissent leur vie. Ça, c'est ça le plus important.
Ouais. Parce que ce matin, il a fait un tweet en disant « Mes chéris, je suis entier, loyal, sincère et je serai toujours moi-même à l'antenne. Je suis sanguin et vrai, comme certains politiques. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté. C'est pas un bon exemple. Ben, voilà. Mais pour le reste, il dit, pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis. Je vous aime. »
Ouais, mais... Et moi, je pense que pour moi, il faut l'accepter, les excuses. Très bien, il a réagi, il a fait des excuses. Après, il est comme ça. Tous les jours, il est plus en direct, il était chaud. Voilà, on n'a pas...
Sauf que là, le député et les filles, eh ben, ils portent plainte contre l'animateur.
Ah, ça, je n'étais pas au courant. S'il a porté plainte, bon, c'est dommage parce que ce député-là, avant qu'il soit député, il a fait des chroniques chez lui, il a pris des cachets. Maintenant, il se retourne contre lui. Ils auraient pu s'entendre... à la fin de l'émission, bon écoute, désolé, je t'ai parlé un petit peu, j'étais un petit peu vénère et tout, mais bon, il faut prendre les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de drame, il n'y a rien. Hanouna, il a 2 millions, 3 millions de téléspectateurs tous les jours.
Ouais, après, tous les jours, c'est 2 millions, 2 millions. 2 millions. Voilà, 2 millions tous les soirs. Voilà. 1 million, 2 millions tous les soirs. C'est beaucoup, hein?
Ah, quand même, bien sûr, c'est beaucoup, donc il faut accepter la critique. Par contre, pourquoi on n'accepterait pas la critique quand vous entendez, excusez-moi, je prends juste 2-3 minutes, Zemmour qui parle à la télé en direct, qu'il insulte nous, ben, nous, maghrébins, africains, toutes les gens de couleur. Non, on dit rien là. Il n'y a pas de scandale, il n'y a rien. Hanouna, il parle et tout ça. Hanouna, ben, moi j'ai 40 ans. Et on a la même génération. Voilà, il s'est emporté, il n'y a rien de méchant. Après, bon, c'est un député, mais le mec, Zemmour, le gars est président d'un parti,
ouais,
le mec, il se permet de critiquer comme il veut, et par contre, on lui dit rien. Pourquoi ?
Eh ben, on ouvre le débat. Merci Farid d'être intervenu.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Je recevrai, tiens, Naïma de Sevran. Bonsoir Naïma. À tout de suite, ne bougez pas, reste avec nous. Le 01 53 48 3000, on marque une pause et on se retrouve dans une, voilà, dans quelques minutes à peine. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, c'est aussi les auditeurs. C'est parti.
01 53 48 3000. 18h23. Les informés vous donnent la parole.
Je me suis empressé, 18h23, et c'est votre espace justement de parole. On parle à la fois du clash Hanouna et le député Louis Boyard, mais aussi de ces signalements de la laïcité. J'ai tout à l'heure cette auditrice qui comparaissait les deux sociétés, celle d'avant, celle d'aujourd'hui évidemment. Je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Tiens, je récupère Naïma de Sevran. Naïma, rebonsoir.
Rebonsoir.
Nous vous écoutons, mon cher Naïma.
Moi, je voulais juste, alors, sur les deux choses, je voulais intervenir. Sur le clash, bon, c'est la télé, c'est la société qui veut ça aujourd'hui.
Ah oui, je suis d'accord avec vous, Naïma, mais est-ce que ça autorise les insultes ?
Alors, ça autorise pas les insultes, mais que ce soit un élu de la République ou une personne lambda,
vous
non,
avez entendu les insultes tout à l'heure ?
Oui, mais enfin, je l'ai même vu, le clash.
Ben oui.
Je l'ai vu quand je...
Ah, vous l'avez
mais
vu.
Ça n'excuse en rien, je veux dire, à aucun moment on insulte, ça va pas, c'est... Enfin, je veux dire... Alors en plus, je crois que c'est décuplé, parce qu'il y a un article de loi qui dit que l'élu de la République, il a une certaine protection, donc... Voilà, bon, après...
Bah, il a porté plainte.
Voilà, après c'est démagogique, parce que quand on sait que ça a été un chroniqueur de l'émission, bon... Je sais pas quelle crédibilité il a, l'élu aussi, donc... Moi, ça me laisse dubitative, un peu, cette situation. Après... Je crois qu'il ne faut pas oublier le problème de fond, c'est ces migrants qui meurent en mer, c'est ça. Voilà, ce n'est pas le clash, les insultes, même si effectivement les insultes n'ont pas lieu d'être, mais la problématique de base, c'est tous ces migrants qui meurent en mer, quoi.
Et
qui arrivent ici dans des états. Voilà, c'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'on fait et comment, est-ce qu'on réagit ?
Bonne question, exactement, vous avez raison, c'est vrai.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait ?
C'est ça la c'est qu'aujourd'hui, on a tous ces gens qui meurent en mer et c'est pas normal aujourd'hui en 2022.
Non.
Et c'est pas normal qu'on se renvoie le bateau d'un pays à un autre. C'est pas normal. En 2022, ça devrait pas exister. Surtout dans des pays comme les nôtres, quoi. Les pays, comme on dit, des puissances mondiales, c'est inadmissible.
Ouais. Eh bien, merci Naïma d'être intervenue.
Voilà. Merci bien. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Restez fidèles. Nous allons aller direction Grenoble avant de retrouver Saint-Ouen-le-Maune. Ça doit être ça. Linda, bonsoir Linda de Grenoble. Linda, vous êtes avec nous ? Bon, bah écoutez, un problème de connexion. Nora qui nous appelle du 95. Mais quelle ville du 95, Nora ?
Saint-Ouen-le-Maune.
Saint-Ouen-le-Maune. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Nora ? Allô ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Que se passe-t-il ? Nora, elle a des problèmes. Ils ont tous des problèmes de connexion. Linda de Grenoble, problème de connexion. Faut... Nora, essayez de vous caler.
Oui.
Vous êtes là ? Vous m'entendez ?
Oui.
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 Je disais, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Nora ?
Alors moi, je suis formatrice FLE et formatrice également pour apprendre aux personnes, elles apprennent le métier pour travailler chez Pôle emploi, par exemple.
Eh bien, bienvenue à vous. Nous vous écoutons, ma chère Nora.
Eh bien, écoutez, moi, je voudrais pas réagir sur Hanouna. Ça ne m'intéresse pas du tout et tout le monde devrait éteindre sa télé. Par contre, je voudrais réagir par rapport à toujours stigmatiser la religion dans le sens où une fille voilée, parce qu'on la voit danser dehors et elle porte le voile, elle revendique pour l'école, ce sont deux faits différents. Elle obéit à son Seigneur, elle est voilée, ça la regarde, c'est elle et son Seigneur. Et si elle danse, dehors, en se montrant, ou même qu'elle soit dans une tenue, peu importe, c'est autre chose. Mmh. Et arrêtons de dire, oui, c'est la République, c'est si ça, la foi, c'est quelque chose d'intime et plus fort que tout. On respecte, si on nous dit, on n'a pas le droit d'être voilé, libre à nous d'aller travailler, pas aller travailler, ça regarde chacun, mais on a, faut arrêter de, les personnes dans la pratique de leur foi.
Oui, oui. Ça, c'est votre sentiment, voilà. Ça.
Ça, c'est mon sentiment. C'est nous et Dieu. On a la chance de ne pas avoir de clergé.
Oui.
Donc, c'est entre nous et Dieu. Elle est voilée, tant mieux pour elle. Elle obéit à son Seigneur.
Bon. Et, mais quand ça rentre dans le cadre... Chose. Pardonnez-moi, Nora. Mais quand ça rentre dans le cadre, oui, de la laïcité, l'école, c'est-à-dire que normalement, l'école, vous n'arrivez, oui, pas voilée. Vous, oui, le savez, ça.
Oui. À l'université, si, on peut.
Oui, mais je vous parle de ces signalements au collège et au lycée.
Bien sûr, celle qui est au collège et qui veut continuer à aller au collège, mais c'est schizophrène, puisque on est obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Et d'un autre côté, on est obligé aussi parce que y a une pseudo-loi, moi je la connais pas, cette loi, de dire que le voile est interdit. Après, c'est libre à chacun. Les gens, soit...
Enfin, là, pour le coup, c'est pas libre à chacun. La jeune lycéenne... Non, vous ne pouvez pas dire ça, Nora. La jeune lycéenne qui arrive dans son lycée, elle peut porter son foulard, oui, en dehors de lycée, elle fait ce qu'elle veut, vous avez, oui, raison, c'est, oui, sa sphère privée.
Oui.
Mais dès l'instant où elle franchit la ligne, le cadre du lycée, elle retire son voile. Elle ne peut pas le garder.
Elle est obligée. Elle est malheureusement obligée.
Oh, malheureusement,
si
enfin...
Elle veut continuer... Si elle veut continuer ses études, elle est malheureusement obligée de le retirer. Moi, quand une personne qui recherche du travail porte le voile, je ne lui dis pas bah, « Retirez votre voile, vous trouverez plus facilement ». Non, je ne prends pas cette responsabilité, pas du tout. Mais par contre, il y a des lois et on est obligé, tant qu'on vit en France, d'obéir à ces lois. Si on veut aller au lycée ou travailler ou peu importe,
bah,
c'est libre à chacun.
Il faut se plier aux règles.
Dans ce sens-là.
Ouais.
Il faut se plier
aux règles.
Ou pas.
Ouais.
Ou pas. Ou pas, dans le sens où, eh ben, peut-être on dit autre chose. On ne va pas au lycée, on fait des cours à la maison. Mmh. On s'organise et en fonction de ce que l'on met en priorité tout à chacun.
Mais ça fera lancer le débat. Les autres vont vouloir, ouais, réagir et tant mieux. 01 53 48 3000. Merci Nora d'être intervenue.
Avec plaisir. Allez, partagez. Bonne continuation à tous.
Merci, vous revenez quand vous voulez. À bientôt. Linda, ça y est, on a retrouvé notre Linda de Grenoble.
Oui, bonjour.
Rebonjour. Vous avez un problème de connexion ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Linda ?
Femme au foyer.
C'est bien, pourquoi vous dites ça comme ça avec...
non, c'est avec un grand enthousiasme.
C'est bien. Ben oui. Écoutez, c'est assumé, c'est un choix que vous assumez.
Un choix assumé pleinement.
On vous écoute, quel sujet vous voulez traiter ?
Alors, je voulais traiter du sujet du pseudo-clash Cyril Hanouna avec Louis.
Oui, avec Louis Boyard, le député. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, moi, je veux juste rebondir sur ce que les autres auditrices ont dit, et auditeurs, parce qu'il y avait Farid.
Oui.
Le problème n'étant pas les migrants, si on réfléchit bien, Cyril Hanouna n'est pas sorti de ses gonds quand on parlait des migrants, mais quand on a parlé de M. Bolloré.
Oui, c'est ça le sujet, oui, bien sûr.
Donc, oui, mais c'est pas tant les migrants, au final. Mmh. Parce que ce clash a eu lieu à cause de M. Bolloré.
Mmh.
Mais pourquoi M. Bolloré ? Parce que Cyril Hanouna nous dit gentiment que c'est son ami. Ce n'est pas son ami, c'est son patron. Donc, la question se pose. Si demain, si j'insulte le patron de Beurre FM, est-ce que vous allez le défendre ou vous allez ne pas le défendre ?
En tout cas, je vous rappellerai. Alors, si vous venez pour l'insulter ici, je vous dirai, attendez, vous ne pouvez pas tenir ces propos insultants à l'égard d'un patron. Si ensuite, après, vous voulez d'accord, si vous voulez dire, bon, je ne suis pas d'accord avec elle parce que, effectivement, telle ou telle chose, je ne la partage pas, ça, vous êtes libre. Ça, il n'y a aucun souci.
Alors,
personne ne vous l'interdit. En revanche, si vous venez et vous insultez ma patronne, bah oui, là, je vous dirai non, vous ne pouvez pas venir chez moi et en plus, vous permettre d'insulter ma patronne. Non, là, oui, moi-même, je ne vous laisserai pas. C'est pas possible.
La question, est-ce que le député a insulté M. Bolloré ? Non, il a juste fait part de la situation actuelle où M. Bolloré est en procès avec des centaines de personnes au Cameroun. Il a juste fait part de la situation. Oui. Donc,
et là, pour le coup, c'est Cyril Hanouna qui insulte le député.
Oui, mais c'est M. Hanouna qui l'insulte, mais parce qu'il essaye de prendre la défense de son patron, qui est son patron, donc il y a une histoire financière derrière. Mmh. Et lui s'est senti offensé parce que son patron s'est fait mis devant la scène publique en affichant ses procès actuels.
Ouais.
Donc vous me dites que vous prendrez la défense de votre patronne demain.
Ouais. Si vous l'insultez, c'est normal, ma chère Linda.
Écoutez-moi,
si vous venez ici à l'antenne, admettons, vous l'insultez, vous ne pouvez pas vous permettre ça si vous voulez. L'antenne n'est pas ouverte aux insultes.
C'est pas ce que le député a fait, il ne l'a pas insulté. Si demain je découvre que la patronne de Beurre FM a pillé ou a des procès en Afrique et que j'en fais part au reste de la population, est-ce que vous serez en mesure de m'insulter? Vous n'êtes pas.
Ah non, je ne vais pas vous insulter. Non. D'ailleurs, non, je ne vais pas vous insulter, ça c'est sûr. D'ailleurs, Cyril Hanouna, d'abord, Louis Boyard, le député, il a porté plainte. Il a dit je vais porter plainte contre Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, dans un tweet ce matin, il dit mes chéris, je suis entier, loyal, sincère et je serai toujours moi-même à l'antenne. Je suis sanguin et vrai, comme certains politiques. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté. C'est pas un bon exemple. Pour le reste, je ne regrette rien. Je défendrai toujours mes amis. Voilà.
Oui, mais c'est ce que je dis, ce n'est pas son ami, c'est son patron. C'est celui qui le paye et le finance.
Eh bien écoutez, on continue d'en parler.
C'est pas la même chose.
On continue d'en parler au 01 53 48 3000. Merci de votre passage ici même. Restez fidèles, Linda.
Au revoir.
Au revoir, à très bientôt. Allez, avec quelques minutes de retard, je m'en excuse. Le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque lundi, vous le savez, c'est avec Maître Franck Serfati. Bonsoir, mon cher maître. Comment ça va?
Super, super. Après un bon week-end fort agréable, on reprend la semaine de façon positive.
Eh bien, écoutez, collez bien devant votre portable ou de votre combiné, de façon à ce que ça soit bien audible à l'antenne, s'il vous plaît, mon cher maître. Vous parlez du vivre ensemble, nous vous écoutons.
Alors, cher Adil, depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai eu l'occasion de débattre et de donner, non pas un point de vue, mais quelques explications de façon la plus objective possible sur certaines violences, hein, des violences terroristes avec les procès que nous venons de terminer, l'hypercacher en première instance, puis en appel, le Bataclan, le procès de Nice qui est en cours. Et aujourd'hui, j'aurais voulu ce soir avoir un point de vue beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif, beaucoup plus dynamique.
Oui.
Rentrant de cette ville magnifique de Marrakech, je me suis dit qu'il fallait absolument revenir sur cette douceur de vie au Maroc, à Marrakech de façon particulière, au Maroc de façon plus générale, et surtout cet accueil des Marocains de façon encore une fois générale. Mmh. On parle beaucoup de choses qui ne vont pas. Là, je voulais quand même rappeler que le bien vivre est un exemple qui m'est apparu typique dans ce beau pays. Hein. Mmh. Je rappellerai que le Maroc a été l'un des premiers à signer les accords d'Abraham, que c'est un pays qui est ouvert depuis peut-être 2000 ou 3000 ans. Alors, les Berbères existent là-bas, hein, tribus nomades, hétéroclites qui traversent les paysages, les déserts marocains, algériens, tunisiens aussi également. Mais je crois que le Maroc est un exemple. Et pour terminer, parce que je sais que le temps est compté, j'ai eu l'occasion, voici 5 ans, de participer, alors non pas à Marrakech, mais à Casablanca, à un congrès des élus français d'origine marocaine, et un certain nombre de personnalités, des présidents d'associations, des ministres, des anciens ministres marocains, citaient la France, qui est bien sûr un pays magnifique, avec des institutions extraordinaires qui ont pu s'exporter dans nombre de pays dans le monde entier, mais je crois que le Maroc, et je l'avais dit à l'époque, est aussi un exemple de ce bien vivre ensemble pour lequel nous essayons ici modestement en France de développer des actions. Et ce soir, je voulais simplement souligner cet exemple encore une fois qui m'a semblé très sensible en provenance de nos amis marocains et de façon générale de ce beau pays, le Maroc, avec bien évidemment peut-être un remerciement tout singulier à Sa Majesté, parce que à l'évidence, le peuple marocain suit certainement, hein, il y a un binôme bien organisé entre les dirigeants, la royauté et le peuple, mais aussi un clin d'œil.
Je vois que vous avez été marqué, effectivement, maître Serfati.
Oui, parce que si vous voulez, chaque fois que je vais au Maroc, je me rends compte que toutes les communautés religieuses, toutes les nations, tous les peuples sont bien accueillis et vivent véritablement, objectivement, dans une osmose. Moi qui essaie modestement, encore une fois, de développer ce sentiment et cette réalité du bien vivre ensemble qui est parfois...
Je sais que vous êtes attaché effectivement au bien vivre ensemble.
Dans tous les pays du monde, effectivement. Attaché, j'ai trouvé que l'exemple était aussi, que le Maroc était aussi un exemple assurément à souligner. C'est ce que j'ai voulu faire modestement et affectueusement.
Eh bien, merci pour le vivre ensemble. Maître Franck Serfati, à la semaine prochaine sans faute. Avec votre billet d'humeur, effectivement. On s'est mis légèrement en retard. On lance la pub tout de suite, là, maintenant. Et 01 53 48 3000 et les débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h44 précisément. Les informés, c'est vous aussi au 01 53 48 3000. Soyez les bienvenus si vous venez de nous retrouver. Et c'est parti, vous le savez, pour le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, c'est avec l'omniprésence d'Emmanuel Dupuis. Un coup BFM TV, un coup... Non, c'est News, non. Et beaucoup LCI. Qu'est-ce que je le vois, là, mais j'ai l'impression... Vous bossez à LCI ou quoi?
C'est News ne veut pas de moi, non. Mais j'apprécie beaucoup l'ambiance de LCI. J'apprécie beaucoup les chroniqueurs.
Ouais, je vois.
Dont un qui officie le dimanche de 11h à 13h.
C'est ça, c'est ça, exactement, absolument. Comment ça va, mon cher président de l'IPSE?
Je suis un peu malade, mais...
Oui, j'ai vu, bon rétablissement. Qu'est-ce qui vous arrive?
À force de
crapahuter
un petit peu partout dans le monde, le choc thermique.
Mais le masque, remettez le masque quand vous voyagez.
Bah, c'est des virus capitalistes, Emmanuel. C'est pour ça que t'es malade.
C'est des virus, oui, c'est vrai.
C'est des virus capitalistes.
C'est pas faux. Parce qu'on les attrape dans les avions. Donc
c'est ça.
Là, je suis d'accord.
Tiens, bonjour, Jimmy. Oh, là, vous êtes d'accord. Une clochette. Ça vaut le coup d'une clochette, là. Voilà, là, c'est bien, là. Pour une fois qu'Emmanuel Dupuis est d'accord avec Jimmy Dalidou, alors je vais l'inscrire dans les annales radiophoniques. Jimmy Dalidou, représentant CGT, bonjour.
Bonjour à tous.
Comment ça va? Et auteur.
Et toujours auteur.
Le représentant, vous savez, de Renaissance du 93, il prend des coups, mais il sait donner des coups. Il s'appelle Nabil Aitakash. Comment ça va?
Bonsoir Adil. Tout va bien? Tout va très bien.
Messieurs, nous allons démarrer avec ce premier sujet. Je voudrais juste faire un tour de table sur le clash Hanouna et le député. Même si ça avait, c'était pas à l'ordre du jour, Emmanuel Dupuis, ça prend une ampleur spectaculaire, cette histoire.
Bon, alors déjà,
tous les médias en parlent, on en parle encore aujourd'hui.
Vous savez ce que je pense d'Hanouna et le fait qu'il capte l'attention politico-médiatique.
Ouais, sauf que là, ça fuse en insulte.
Oui, mais ce n'est qu'un battleur de foule. Et donc, de ce point de vue-là, il faut savoir raison garder. Hanouna ne fait pas l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Donc, si ce député l'assigne en justice, il a raison de l'assigner en justice, il estime que M. Hanouna a dérapé. Ensuite, l'affaire n'est pas tellement politique, elle est économique. Ça a été rappelé. M. Hanouna a défendu le président, directeur général de la chaîne qui l'emploie. Fût-il un ami, mais il a quand même défendu et il a, d'une certaine façon, caché sa défense ou son admonestation sur des faits politiques, mais c'était avant tout une question économique. Et puis, encore une fois, je le répète, ce type d'émission ne peut pas remplacer des émissions sérieuses. Et je trouve que l'attention médiatique que l'on porte sur cette affaire montre à quel point la politique est dévoyée en tant que telle.
Oui. Nabil Aitakash, c'est vrai?
Non, c'est vrai. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Je suis complètement d'accord avec Emmanuel. Je pense qu'il est dans son droit, le député, de l'assigner en justice. Je trouve que c'est un très mauvais exemple qu'on donne à la jeunesse, à la télé et en direct, que d'insulter un parlementaire. Les politiques aujourd'hui sont attaqués de toutes parts. Donc c'est pas
mais il s'est excusé, Cyril Hanouna.
Il s'est excusé, mais le mal
les insultes.
Ouais. Mais le mal est fait. Je sais pas qui va regarder ensuite ces excuses, qui va les entendre. Après, bon, là où peut-être je suis moins d'accord, c'est que je pense qu'il faut aller sur tous les médias pour parler de politique, pour parler de sujets de société importants.
Pour capter, évidemment.
C'est important. On peut le faire de manière sérieuse sur d'autres plateaux. On peut le faire de manière peut-être plus légère. Mais en tout cas, il faut parler à tout le monde. Et il faut mépriser personne.
Jimmy Dalidou.
Ouais, c'est un peu le problème. Ça reflète un problème plus profond dans cette société qui est la politique de clash. En fait, les émissions ne... On n'a plus des émissions de la raison, si vous voulez. On a plutôt des émissions du clash. Les propos qu'a tenus M. Hanouna envers le député sont inadmissibles. Même si on n'est pas d'accord, on n'a pas besoin d'insulter. il développe pourquoi il n'est pas raison et puis il débatte et c'est ce qu'il devrait faire. Mais ce qui est surtout très problématique, c'est que ça révèle le problème de la concentration. C'est le fait qu'en fait ça a révélé le fait que Monsieur Bolloré concentre beaucoup de secteurs, pas seulement les secteurs de production, mais aussi les secteurs de communication. Et pour moi, les multinationales n'ont pas leur, elles devraient pas être, les médias sont les médias. Un média, il devrait être indépendant, autonome. Il devrait pas être, il devrait pas y avoir de lien entre ces gens-là et les médias.
Tiens, Fatima, qu'est-ce que vous en pensez, Fatima de Paris? Bonsoir, Fatima.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, bienvenue, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire?
Bonsoir à vos invités. Moi, ce que je pense de cette affaire, c'est que comme Darmanin, Roussel, Bordella et je sais tous les autres politiques viennent dans une émission côtoyer Afi Baturner en string, une autre qui enlève son pull et qui se met en soutien-gorge, des débilités à en veux-tu, en voilà. Moi, je pense que c'est normal qu'il y a des insultes et que les politiques n'ont pas la place.
Ils ne doivent pas venir, selon vous, ils ne doivent pas boycotter, c'est ça?
Moi, ce n'est pas une émission politique pour moi. La politique, pour moi, c'est du sérieux. Depuis que les politiques ont commencé à se mélanger à du n'importe quoi, il y a l'abstention, les gens ne votent plus, ne les croient plus. Donc, c'est une émission qui est la plupart du temps vulgaire. Un politique, c'est du sérieux. Ça n'a pas à être vulgaire.
Donc, c'est pas...
C'est de la vulgarité. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal que... Moi, ça ne m'étonne pas qu'Anouna insulte et tout. Il dit pire. Je reviens à la laïcité, si vous me permettez.
Rapidement, s'il vous plaît.
Rapidement. On ne parle plus du foulard. On parle de la beya. Qu'est-ce que c'est qu'une beya? Moi, je ne suis pas adepte. Moi, je suis adepte du chapeau. Chapeau, la baguette, parce que je, à force de m'intégrer, je me suis désintégrée. Donc, je pense qu'il parle de l'abeille. L'abeille, qu'est-ce que c'est? C'est une robe longue avec capuche. Ce n'est pas religieux, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est juste un acharnement. Parce que ce matin, j'entendais le Golnaden, ou je ne sais pas comment il s'appelle, justement parler de ça, parler d'islam. Donc, on en a marre. Nous, on est là, et il faut faire avec. On va pas demain se dire tiens, parce que monsieur,
c'est votre point de vue, effectivement, ma chère Fatima, c'est votre point de vue.
Je vous remercie, Adil.
Je vous en prie. Merci, excellente soirée. Vous êtes de plus en plus nombreux à intervenir. On va parler, messieurs, tout de suite des migrants. Vous savez, le va-et-vient entre l'Italie et la France, un accord a été signé entre la France et le Royaume-Uni quand on parle des migrants pour lutter contre les traversées, justement, notamment de la Manche. Alors, messieurs, un tour de table, parce que très important ce sujet. L'Europe, on a le sentiment qu'elle est désorganisé concernant cette thématique, ce sujet concernant les migrants. Et puis, on a vu ce clash aussi, autre clash, ces tensions entre l'Italie et la France. Et puis aujourd'hui, le Royaume-Uni qui signe un accord avec la France. Emmanuel Dupuis.
Bon, déjà, il faut quand même rappeler que la Grande-Bretagne n'est pas liée aux accords, précisément, parce qu'elle est sortie du système Dublin 3. Je rappelle ce qu'est Dublin 3, un ressortissant ultra-périphérique, donc venant d'un pays en dehors de l'Union européenne. À partir du moment où on rentre dans un pays de l'Union européenne, doit faire sa demande et le pays doit l'accueillir. Ce sont des obligations. Par contre, la Grande-Bretagne est sortie de ce système quand elle a brexité à partir de 2016. Ça veut dire qu'il y a une tension très particulière entre les pays qui font face à la Grande-Bretagne. La France, la Belgique
ouais,
notamment. Donc la France a, durant les cinq dernières années, tenté de trouver un modus operandi. Bon, compliqué. Parce que chacun y va de son leitmotiv et chacun essaye de défendre ses propres intérêts.
Sauf que là, c'est les intérêts européens, d'abord.
Alors, c'est surtout les intérêts des pauvres migrants qui traversent
la Manche. Mais vous avez raison.
Et qui meurent.
Les pauvres migrants.
Et 27 sont morts en traversant la Manche. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme toujours, vous le savez, je suis un Girondin, on a une vision très jacobine de ce traitement. C'est entre les deux ministres de l'Intérieur. Alors que ça concerne avant tout les élus locaux. Le maire de Calais ou la maire de Calais, c'est elle qui doit faire face à cette agglomération. C'est vrai aussi du maire de Cherbourg ou d'autres communes sur la côte. Donc, il faut un petit peu plus associer des acteurs locaux, parce que c'est eux...
On a tendance à les oublier.
On a tendance à les oublier. C'est eux, et je crois qu'il faut les saluer, qui font de l'humanitaire. Ou qui font de l'humanisme par rapport à ces pauvres airs qui essayent de traverser la Manche. Dernier point.
Oui.
Par contre, entre la France et l'Italie, là, il y a quand même un peu de cynisme du côté des Italiens, parce qu'ils ne veulent pas appliquer.
Bah, c'est pas seulement que du cynisme, Emmanuel, tu sais bien, de par leur orientation idéologique.
Bon, alors, si on veut. Mais enfin, il y a quand même un cynisme de la part de ce gouvernement qui, encore une fois, nous refourgue Ocean Viking, alors que théoriquement, le droit international de la mer est
indispensable. Et donc, justement,
totalement responsable.
Justement, ouais. Les points de vue divergent et c'est une très bonne chose. Très bonne chose. On revient. Personne, absolument.
Personne ne peut défendre la position italienne. Personne.
Personne.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés avec Emmanuel Dupuis, les informés avec Nabila Itakash et enfin les informés avec Jimmy Dalidou. Bah, je croyais avec Kevin Jingle, mais bon, c'est pas grave.
Non, non,
mais
pardon. Les informés. Le face-à-face.
18h55, c'est le direct, c'est le live. Nabila Itakash, on vous écoute et ensuite Jimmy Dalidou.
Non, mais pour répondre à Emmanuel sur le fait d'associer les élus locaux, alors oui, sur la gestion, quand vous avez des migrants qui sont là, oui, il faut bien évidemment associer les élus locaux et on essaie de faire de dans la mesure du possible. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un accord entre deux pays. Donc les élus locaux, on peut être aussi girondin et décentralisateur qu'on le veut. Là, c'est d'État à État, c'est de ministre à ministre. Donc on peut se féliciter de cet accord déjà entre Gérald Darmanin et son homologue britannique. Ça faisait quand même un certain temps qu'il y avait des dissensions entre le Royaume-Uni et la France. Mmh. Les Anglais, les Britanniques se rendent compte qu'ils peuvent pas ne pas travailler avec la France. L'objectif de cet accord, c'est vraiment d'empêcher que des pauvres migrants aillent s'embarquer sur des embarcations donc de fortune et qui risquent leur vie. Donc les Anglais ont compris qu'il fallait mettre des moyens, donc ils mettent des moyens et ils nous donnent 70 millions d'euros pour pouvoir recruter des policiers, des gendarmes et les mettre au niveau des côtes. Voilà, donc il y a quand même l'objectif principal, c'est de démanteler toutes ces filières qui exploitent la misère des migrants. Et il faut trouver des solutions. Parce que
Jimmy Dalidou.
Bon, alors cet accord démontre qu'en fait ils sont d'accord pour réprimer la misère, mais pour réprimer la misère ils sont d'accord, mais pour les aider c'est plus difficile. J'aurais préféré qu'ils envoient ils ont prévu de renforcer la présence des policiers sur les plages par exemple, notamment vers Calais, etc. J'aurais préféré qu'ils renforcent la présence
de. Ça veut dire qu'il faut les laisser.
J'aurais préféré qu'ils renforcent la présence de personnel soignant, etc. Pour de personnel qui aurait été en mer pour aider les pauvres migrants sur les bateaux et qui meurent.
Mais
je reviendrai, je finis ce que je disais. Donc je reviendrai quand même sur les causes quand même, parce qu'il faut pas exagérer. Moi j'aimerais bien qu'on parle des immigrés français en Afrique et qui pillent l'Afrique depuis des décennies quand même. Parce que je vous rappellerai que l'impérialisme français massacre les Africains depuis des décennies. Ça fait des décennies que les multinationales françaises pillent l'Afrique.
J'ai un auditeur qui disait ça tout à l'heure.
Et qui pille les matières
qui
premières.
Qui faisait référence justement à
africaine. Ouais. Je développe ce que je dis. Et les Africains sont victimes d'un grand remplacement, en fait. Ils sont remplacés, les Africains, par les multinationales françaises qui installent leur politique désastreuse, destructrice. Et ensuite, je reviendrai aussi, c'est un autre élément qui est inadmissible. Je vous rappellerai que il y a, pour l'année 2022, c'est plus de 100 000 Ukrainiens qui ont été accueillis en France. Je ne vois pas pourquoi on serait capable d'accueillir plus de 100 000 Ukrainiens et qu'on serait incapable d'accueillir quelques centaines de frères africains qui sont en galère. Ça reflète pas, en tout cas, ça reflète pas ma France. Ma France, à moi, elle est une et indivisible.
Vous l'entendez ça? Parce que de plus en plus, justement, les Africains, quand vous leur posez la question, on leur dit, mais attendez, on a été colonisés, vous avez les multinationales qui sont là, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison, nous, ici, qu'on tente une aventure. Vous l'entendez, ce message aussi parfois, Emmanuel Dupuis ou Nabil Itakash?
Déjà, le rapport de l'Organisation internationale des migrations estime qu'il n'y a pas plus de 300 millions de personnes qui migrent dans le monde, donc moins de 2%. Donc l'idée sur laquelle il y a un grand remplacement, dans un sens ou dans un autre, est une fable. Deuxième élément.
C'est ce que dit Eric Zemmour aussi.
Il n'est pas tout à fait ça. Il dit qu'au contraire,
il laisse entendre ça.
Il y a une migration d'un côté. Mais qu'il y a
il laisse entendre ça. Il dit dans 20 ans, 30 ans.
Okay. Bah, quand tu vois qu'en Afrique, certains dirigeants français s'installent et accaparent les richesses d'Afrique, alors que dans le même temps, les Africains crèvent la dalle, je sais pas ce que j'appelle un grand remplacement
c'est
en Afrique.
La même question. Ensuite, la migration, elle est avant tout intracontinentale. On migre dans son voisinage. Hein, la grande transhumance, il y en a, évidemment. La Syrie, Haïti, l'Afghanistan. Mais c'est vraiment peu. Alors, l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une migration africaine est une fable aussi. La migration n'est pas africaine. Elle est albanaise. Elle est kosovare. Elle vient des Balkans avant tout. Elle vient d'Haïti. Elle vient de toutes les misères du monde. Et pas seulement du continent africain qui serait perclus parce qu'il y a, ou obligé de migrer parce qu'il y a des guerres. Il y a plusieurs raisons. La symétrie du développement, les guerres, la mauvaise gouvernance. Après tout, la mauvaise gouvernance, c'est pas nous. Hein. Ce sont avant tout les régimes politiques qui sont là et qui assument mal le minimum operandi qu'ils doivent à leur population, c'est-à-dire assurer une bonne gouvernance.
Alors,
dernier point. Par contre, ce qui est important, et moi je suis un humaniste, que malgré tout ça, il faut tout faire pour accueillir la misère du monde. Parce que sinon, notre modèle de société vole en éclats. Donc, malgré ce que peut dire Gérard Collomb, on y reviendra.
Vous me permettez une belle transition, justement.
Juste une phrase.
Il
met en opposition, je crois, de manière trop artificielle, l'humanité contre la fermeté, ou la sécurité contre l'humanité.
Alors, Gérard Collomb, il attaque qui? Il attaque le chef de l'État, Emmanuel Macron, sur l'immigration. Alors, clairement, lui, il n'est pas favorable du tout à l'accueil en France des 234 migrants, donc, du sujet qu'on a traité tout ce week-end. L'ancien ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il n'est pas en train de régler ses comptes avec Emmanuel Macron? Et puis, vous savez, vous avez l'extrême droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui se frottent, évidemment, les mains. Et il dit même, Gérard Collomb, si je m'étais exprimé avant la présidentielle, Marine Le Pen aurait pu être élue. Jimmy Dalidou. Ouais,
alors, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à Marine Le Pen, pour moi, c'est un excès d'égocentrisme, en fait. Parce que je vois pas dans quelle mesure un élément, un personnage, même si c'est un personnage politique important, dans quelle mesure il aurait influé sur le vote de 60 millions de Français. C'est un excès d'égocentrisme surdimensionné. Ensuite, je reviendrai sur si vous regardez ce qu'il a dit, bon, il essaye de revenir sur sur la scène politique en tapant sur Emmanuel Macron, que je défends pas, vous connaissez mon avis là-dessus, mais quand même, s'il voulait, on a l'impression dans ce pays que les clashs entre personnes politiques se substituent aux convictions politiques, qui normalement devraient être l'orientation. Je vous rappellerai qu'il a pas, dans ce qu'il a dit, il a pas condamné la position du gouvernement italien. Je vous rappellerai que Fratelli d'Italia, qui est un gouvernement clairement néo-nazi, ne veut plus d'immigrés, renvoie tous les immigrés vers la France et en disant vous les Français occupez-vous-en et nous on s'en fout. Et est-ce qu'il l'a condamné? Monsieur Collomb ne l'a pas condamné. Donc là on voit bien que c'est une démarche opportuniste, égocentrée.
Nabil Takache, Emmanuel Dupuis.
Alors moi je comprends pas les raisons qui poussent Gérard Collomb à s'exprimer de la sorte.
Je pense que c'est qu'il est blessé.
Oui, mais bon, enfin, en politique, on n'a pas le temps d'ego et de. Et
surtout blessure, pourquoi il en parle maintenant. C'est blessure, surtout ça la question.
Et de blessures narcissiques. Je pense que l'immigration est un sujet sérieux qui attend des réponses sérieuses. La population française demande à ce que le gouvernement agisse quand même sur cette question. Mmh. La France reste la France. Elle a accueilli parce que l'Italie néglige et ne respecte pas le droit international. Donc nous avons fait notre devoir. Nous avons accueilli les migrants qui devaient normalement être débarqués en Italie. Mmh. Maintenant, je crois qu'il y a quand même des réponses à apporter. Les gens nous le disent sur le terrain. En Seine-Saint-Denis, j'ai quand même beaucoup de gens qui disent écoutez, nous-mêmes, ça ne va pas, je ne comprends pas. Et en plus, ils viennent tous en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est rajouter de la misère là où il y a de la misère. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on dépassionne un petit peu ce sujet et qu'on se mette d'accord sur comment on le traite de manière responsable pour à la fois continuer sur notre tradition d'accueil, parce que c'est la France. La France accueille toutes les personnes qui justifient de pouvoir rester sur notre territoire, l'asile, pour des raisons de guerre, de menaces politiques, etc. Mais en même temps, je pense qu'il faut quand même réguler cette immigration, parce que voilà.
Vous savez que j'ai eu certains, moi, qui pensaient comme un peu Le Pen, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les recevoir ni les accueillir.
Si ils arrivent en France, comme primo arrivant, on doit les accueillir.
Oui.
Ce qui est problématique, c'est que le Rassemblement National, il se cache derrière une orientation. Souvent, le motif qui revient, c'est l'économie. Il s'écouterait trop cher, mais je vous rappellerai que c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'OCDE. Vous allez sur le site l'Observateur des multinationales, ils reprennent très bien les chiffres et démontrent qu'en fait, l'immigration coûterait 0,5% du PIB français. Ça coûte 10 milliards par an. Dans le même temps, je vous rappellerai que pour la seule année 2021, c'est plus de 157 milliards d'euros qui ont été versés sous forme d'aides publiques aux multinationales. Donc apparemment, le bateau des aides publiques, lui, il n'est pas prêt de se noyer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à un moment, il faut regarder la réalité en face. On a un pays qui est le pays de 1789, qui est le pays de 1830, de 1848, de 1968, qui a toujours porté des valeurs fraternelles. C'est-à-dire que notre frère en galère, qu'il soit ukrainien, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, on s'en fout en fait. On se doit de l'aider. Et ça, si ça vole en éclat, la France se perd. C'est clair.
Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qui se passe auprès de Gérard Collomb? Pourquoi il en parle maintenant et ça balance quand même.
Il y a un peu de vengeance personnelle. Peut-être craint-il que son épouse ne soit pas reconduite comme députée. Peut-être craint-il que sa place politique dans l'agglomération lyonnaise soit concurrencée. Peut-être veut-il affaiblir encore plus Emmanuel Macron sous forme d'un dépit amoureux, parce que je pense que c'est un petit peu ça qui peut expliquer le fait qu'il le dise maintenant. Souvenons-nous-en, quand il était parti, il n'avait pas évoqué la situation, sauf avec des mots très approximatifs, très explicites, en évoquant la ghettoisation, c'était les mots qu'il avait employés. Donc il n'était pas allé jusqu'au bout de sa réflexion.
Certains disent qu'il lit son départ de Beauvau avec un désaccord avec Emmanuel Macron, justement sur la politique migratoire.
Je pense qu'il lit son départ de Beauvau avec Darmanin qui l'a poussé dehors, avant toute chose. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça pour lui savonner la planche au moment où Darmanin pousse du col pour remplacer Elisabeth Borne.
Vous pensez que c'est ça?
Je ne vois pas pourquoi il le sortirait maintenant. Je ne vois pas pourquoi il ferait le pied de grue ou la petite échelle à Marine Le Pen maintenant.
Jimmy Dalidou,
ouais, non,
cette
mais,
guerre,
ouais,
non, finalement, mais... il donne raison à Marine Le Pen, Gérard Collomb.
Bah, le problème, c'est que oui, en disant
c'est
ça...
Non, mais c'est là où on se pose la question. En réalité, je vous la pose. Parce que lui, il donne raison à Éric Zemmour et il donne raison à Marine Le Pen.
Pire, c'est que, encore une fois, je reviendrai sur le fait que l'opportunisme et les intérêts personnels se substituent aux convictions. Et pour moi, en politique, c'est d'abord les convictions qui devraient être la principale orientation. Mais dans son discours, finalement, il fait le jeu du RN. Et pire, il appelle à s'aligner derrière le gouvernement italien, finalement. Et vous connaissez l'orientation idéologique du gouvernement italien. C'est une orientation idéologique clairement néo-nazie. Et ils poussent à s'aligner de leur côté. S'il avait dit dans le même temps, je condamne la position du gouvernement italien qui n'est pas acceptable, là oui, mais il l'a pas dit. Et il aurait pu le dire. Mais il a fait exprès comme il a dit Emmanuel, je suis d'accord avec lui. Voilà, c'est une attaque personnelle. Il veut revenir sur la scène politique. Il y a les européennes dans un an, je crois. Peut-être qu'il a des perspectives à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est bien dommage que les convictions se perdent dans notre pays. C'est vraiment dommage.
Emmanuel Dupuis, Nabil Aït Akkaj, finalement, il fait le jeu de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour.
Je ne sais pas s'il fait le jeu de Marine Le Pen.
Je crois que le micro est éteint, il me semble. Hein. Le micro est éteint, ouais.
Je ne sais pas s'il fait le jeu de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour. En tout cas, c'est irresponsable. Nous, on tient une ligne qui est assez claire. Accueillir quand on peut accueillir toutes les personnes qui ont besoin d'être accueillies dans notre pays. Et en même temps, encore une fois, moi je peux répéter que ce que je disais tout à l'heure, oui. C'est maintenir une régulation à minima quand même des flux migratoires.
Oui, et puis il y a sans doute aussi une volonté de se repositionner dans des sillons, dans des rails idéologiques, la gauche qui affirme ses valeurs, une gauche plutôt libérale, une gauche plutôt conservatrice, une gauche plutôt de droite, hein, et on voit bien que si on enlevait la phrase de Gérard Collomb et qu'on faisait dire la même chose à Bernard Cazeneuve, ce serait à peu près la même chose. Donc il y a aussi un peu de politique dans tout ça, pour dire que
l'opportunisme, oui, politique.
Oui, l'opportunisme politique, bien sûr, mais la politique, c'est souvent l'opportunisme. Après, il faut savoir l'utiliser. C'est un pari. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté de se dire, bon, ben, il y a quand même un ventre mou, un centre mou. On n'est pas tout à fait sûr c'est moi qui l'affirme, hein, des positions très marquées, très clivantes du président et de son parti. Il est tout à fait possible que certains à gauche veulent repositionner le PS sur un certain nombre de valeurs qui ne sont pas ce que moi je pense être celle du PS, mais qui est portée par un certain nombre de responsables politiques qui sont plutôt enclins à faire la passerelle avec le centre droit.
Direction le standard, 0153483000. Je vais juste, évidemment, voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Farid Danière, bonsoir Farid.
Oui, allô?
Oui, bonsoir Farid.
Oui, bonsoir. J'allais vous dire, pourquoi, comme vous vous en souvenez, il y a 4-5 jours, j'ai intervenu à la radio Beurre FM en oui. disant pourquoi on accueille les Ukrainiens sans problème et on n'accueillerait pas les.
C'est une question qui revient souvent, ça. Hein. C'est une question qui revient. Toute la semaine dernière, j'ai eu le droit à ce type de questionnement, c'est-à-dire deux poids, deux mesures. En gros, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, Farid. C'est-à-dire qu'en gros, quand c'est les Ukrainiens, welcome. Quand c'est les Africains, on doit négocier, on doit parler.
Ouais, voilà.
Merci, Farid, pour votre question. Emmanuel Dupuis, toute la semaine dernière, j'ai eu le droit à ça. On m'a parlé de deux poids, deux mesures. C'est finalement ce que faisait allusion tout à l'heure Jimmy Dalitou.
Il a raison. Hein, le dispositif d'accueil d'urgence des réfugiés ukrainiens, les 106 000 que nous avons accueillis, c'est les 17 milliards d'euros que l'Union européenne a mis en place, n'a pas été utilisé au moment de la guerre dans les Balkans avec l'afflux massif de Kosovars ou le 15 août 2020 au moment de la chute de Kaboul. C'est vrai, il y a effectivement ce crime de lèse-majesté.
C'est bien que vous le dites.
Ouais. Ouais, je le dis. Moi-même, je m'en étais offusqué quand on a mis des caveats à l'accueil d'un certain nombre de migrants, partant du principe que l'Union européenne était très loin de ces migrants, parce que géographiquement, ils étaient très loin. C'est vrai que des migrants qui sont de l'autre côté de la frontière sont plus visibles.
Jimmy Dalidou,
pourquoi la réponse elle est claire, c'est que une force de travail exploitée reste une force de travail exploitée par le capital en fait. Une force de travail quelle que soit son origine, elle reste une force de travail exploitée. Donc c'est beaucoup plus facile d'exploiter une force de travail qui vient d'Albanie, qui vient de Pologne, qui vient des pays de l'Est, qui vient d'Ukraine qu'une force de travail qui vient d'Afrique, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus facile, c'est pour ça par exemple que dans l'Union européenne, il y a différents traités qui permettent la circulation de la force de travail des capitaux, mais ne permet pas la circulation des personnes en difficulté. Elles peuvent circuler si c'est pour exploiter leur force de travail, mais elles peuvent plus circuler si elles sont en difficulté, en fait. Donc, les Ukrainiens, il y a plus de 100 000 Ukrainiens en France. Moi, ce qui est inadmissible, c'est que la France, notre pays qui, à la base, pour moi, c'est le pays de la Convention nationale, c'est le pays de la Révolution française de 89, et ils se sont permis, on s'est permis, malheureusement, on devrait faire notre autocritique, on s'est permis de faire du tri en faisant rentrer dans des bus les Ukrainiens et en mettant de côté des Africains. Pareil dans les hôtels. Les Africains ont été sortis des hôtels, ils ont mis des Ukrainiens à la place.
Alors attendez, ça va dans tous les sens. Nabil.
Alors pour réagir là, c'est quand même c'est pas vrai.
Ben ça c'est pas vrai.
Attendez, Jimmy Dalidou,
ce ne sont pas les autorités françaises qui ont fait ça. Ça s'est fait dans les pays de l'Est. C'est dans les pays.
Non, ça s'est fait dans les localités en France. Ça s'est fait.
Non,
les localités en français. Moi, j'ai pas entendu parler de ça.
Les images terribles qu'on a vues.
Non, c'était pas en France.
On a vu. C'était pas en France. Donc il faut arrêter de taper en continu.
Mais ça aurait fait un scandale si c'était en France. Si ça avait été en France, ça aurait fait un scandale. Emmanuel Dupuis, je pense
qu'il n'y a pas eu de tri entre les Ukrainiens et les Africains dans les bus.
On doit s'écouter parler. Emmanuel.
Parce qu'ils n'ont même pas pu arriver en France.
Vous êtes d'accord avec Nabil?
Les bus allaient vers la France.
Attendez, Jimmy, s'il vous plaît.
Même pas pu arriver en France.
Emmanuel.
Dans les pays d'origine.
Emmanuel, vous dites quoi?
Nabil a parfaitement raison.
Oui, je pense aussi.
Ça s'est fait à la frontière avec la Pologne, ça s'est fait à la frontière avec la Slovaquie, ça s'est fait avec la frontière avec la Roumanie, mais certainement pas en France.
En France, ça aurait fait scandale, croyez-moi, vraiment. Avant de marquer la pause, parce que je voudrais vraiment qu'on parle, vous savez quoi, du carburant. Est-ce que l'inflation est en train de prendre du terrain, d'occuper le terrain de plus en plus? Parce que le carburant, j'ai voulu parler de ce sujet, vous savez pourquoi? Parce que c'est aussi une des préoccupations de ceux et celles qui nous écoutent. Ben, il augmente, là, dans les jours à venir. Est-ce que ça va créer encore une polémique entre les syndicats d'un côté, Nabil?
Alors, il augmente parce que, d'un côté, l'aide qui a été octroyée par le gouvernement s'arrête, là, au mois de décembre. Donc, il y avait une ristourne de 20 centimes du gouvernement et de 10 centimes de Total. Donc, les deux aides s'arrêtent, là, pour le mois de décembre. Mais ce qu'il faut dire absolument aux auditeurs, on le sait, l'inflation, là, elle est problématique. L'essence, ça va être compliqué aussi. Mais il y a quand même un dispositif qui arrive au mois de janvier, qui devrait toucher 11 millions de foyers. C'est déjà budgété dans la loi de finances. La loi de finances que les extrêmes n'ont pas voulu voter, je le rappelle.
C'est quoi qui a été, c'est quoi qui a été,
donc c'est
qui a
un dispositif, un milliard, un peu,
c'est
un
quoi
peu plus
ce, d'un... C'est quoi ce dispositif?
Alors, c'est budgété pour justement venir répondre à cette question de l'essence qui... les prix vont en effet, comme les aides s'arrêtent, il va falloir trouver un nouveau, mais il faut trouver le, en fait l'équilibre, l'équilibre pour aider ceux qui en ont le plus besoin.
Dans la précarité.
Plus d'un milliard. Ouais,
allez, on marque la pause, faut pas qu'on se mette en retard. Pause et on se retrouve.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
9h23, précisément les informés, dernière ligne droite avec Emmanuel Dupuis, avec Jimmy Dalidou, et enfin avec Nabil Aïtakash. Messieurs, je vous redonne la parole parce qu'on parle de cette inflation. Emmanuel Dupuis, que peut-on dire sur ce fameux carburant après avoir écouté Nabil Aïtakash? Mais surtout, c'est pas le carburant qui retient notre attention, c'est l'inflation, les prix qui flambent, et puis cette spéculation. Voilà. Ça spécule dans tous les sens quand même, hein, Emmanuel Dupuis.
Bon, alors déjà, cette inflation n'est pas forcément liée à la guerre en Ukraine. Faut,
c'est bien de le dire.
C'est important de rappeler. Parce que parfois, la tentation serait grande de tout mettre sur le dos de l'Ukraine. C'est pas tout à fait ça. Bon, il y a eu convergence. Hein. On est sorti de la crise du Covid. On est rentré dans la crise ukrainienne. Ce qui, évidemment, a provoqué un peu d'absence d'anticipation financière, monétaire. Deuxièmement, la question qui nous taraude, toute l'Europe. Mmh. Parce que l'inflation, ou la hausse de l'inflation, est une réalité un peu partout en Europe. La question, c'est est-ce que les mécanismes de soutien, les mécanismes qui limitent l'inflation, comme vous le savez, à 3% du PIB, 60% de déficit, ce sont les textes européens, est-ce que ça va suffire à tenir?
Bonne question.
Alors, je réponds. Théoriquement, oui, un hiver. Deux hivers, c'est plus compliqué.
Jimmy Dalidou.
Oui, alors sur la ristourne qui avait été faite par Total. En fait, c'est une ristourne qui était c'est un leurre qui a permis à Total d'échapper à la taxe sur les super profits. C'était fait pour faire gober la couleuvre aux consommateurs. Ensuite, je reviendrai quand même sur les propos de Monsieur le Maire. Quand même, c'est quand même l'hôpital qui fout de la chierité, parce qu'il nous a dit, quand on lui a posé la question, pourquoi on payait aussi cher, il a quand même dit aux Français je n'aime pas les taxes. Alors quand il s'agit de taxer les super profits des multinationales, il n'aime pas les taxes. Par contre, quand il s'agit de la TICPE qui vous prend 35% sur le prix. Sur le litre de carburant, là, et que ça impacte le portefeuille de la majorité des Français qui sont, pour la majorité, issus de la classe ouvrière, des couches populaires, quoi qu'on en dise, là, par contre, ça le dérange plus. Alors, quand il s'agit de taxer les multinationales, ça dérange. Quand il s'agit de taxer les Français qui s'appauvrissent toujours plus, là, par contre, ça gêne pas.
Nabil Aïtakash. Absolument. Nabil.
Alors, juste pour rétablir la vérité encore une fois, quand Bruno Le Maire dit qu'il n'aime pas les taxes, il n'aime pas augmenter les taxes. La TICPE n'a pas été augmentée là récemment. Donc, c'est augmenter le
niveau. Pas besoin d'augmenter. 35% du prix du litre, elle est déjà totalement inadmissible.
Ça, c'est quelque chose de complètement assumé chez nous, c'est qu'on ne veut pas augmenter les taxes et les impôts. C'est évident.
En tout cas, vous ne voulez pas les baisser. 35%, on parle bien de 35% sur un prix du litre de gaz, 35%. Donc 35%, c'est inadmissible en fait. Quand tu touches 1300 euros et que tu t'en apportes 70 balles à faire un plein de gasoil, et t'as, dans tes 70 euros, tu as 35% de taxes, alors que dans le même temps, je te rappellerai que beaucoup de multinationales ne payent même pas d'impôts. D'accord. Donc c'est inadmissible.
C'est quoi le second sujet que vous voulez traiter?
Alors c'était justement le fait.
Le deuxième point, pardon.
C'est l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, c'est repris par l'Observatoire des multinationales, a prévu dans son analyse par rapport aux multinationales de l'énergie organisées au niveau européen, il prévoit un profit qui s'élèverait à 200 milliards pour 2022. C'est 200 milliards pour 2022. C'est l'AIE qui le prévoit. Alors moi, je me dis que si l'Union européenne, dont la France, sont capables de générer 200 milliards sur un an au niveau de leur multinationale de l'énergie, ils pourraient quand même faire un effort pour que les Français puissent aller travailler. Si vous voyez ce que je veux dire.
Je crois quand même qu'on a récupéré au niveau européen, et on en a déjà parlé, on ne va pas en reparler ici encore une fois ce soir, mais on s'est accordé avec les autres pays européens pour justement taxer tous ces profits qui ont été faits sur le secteur
c'est
des
c'est faux.
Dans le
secteur. Mais Total non, mais n'a pas payé vrai. D'impôts en 2020 et 2021. Aucun impôt de payé. Total n'a payé aucun impôt en 2020 et 2021. Allez voir sur l'observation. Pareil, les
Total
sites
le
démontrent.
Total paye des impôts dans les pays où elle réalise. On en a déjà parlé.
2020 et 2021. Mais c'est faux, Total n'a pas payé d'impôts en France.
19h27, messieurs, je voudrais vraiment qu'on traite de ce dernier sujet, c'est l'Ukraine. Et justement, ça tombe bien, il y en a un qui commente régulièrement sur les chaînes de télévision l'Ukraine. Les Russes, vous savez, ont commis des atrocités. C'est pas moi qui le dis, à Kherson, c'est une déclaration du président Zelensky. Emmanuel Dupuis.
Il a été plus
et on fait un tour de table, effectivement.
Il a été plus mesuré que ça.
Où est passé Poutine aussi?
Il a dit que vraisemblablement, à Kherson comme ailleurs, il y avait des crimes de guerre. Il a évoqué le chiffre de 400. Je crois qu'il faut attendre qu'il y ait une enquête internationale. C'est la raison pour laquelle il faut se réjouir du fait qu'il y ait la Cour pénale internationale, qu'il y ait des enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de gendarmerie nationale, l'ICRGN, qui a à peu près une trentaine d'enquêteurs sur place.
Et on voit plus Poutine. Il est passé où?
Alors on n'entend plus Poutine non plus, car il ne s'est pas exprimé depuis la chute de Kherson. Alors que il y a encore quelques jours, il évoquait de manière très s'engager ou de manière très répétitive que Kherson ne tomberait jamais et que Kherson était éternellement russe. Le 30 septembre dernier, quand il a embrassé les quatre gouverneurs, donc des quatre oblats qu'il a réunis à Moscou, évidemment, dans son esprit, le drapeau russe flotterait éternellement sur Kherson. Alors,
il a échoué.
Bah, Kherson, c'est une grosse et une grande victoire militaire ukrainienne. Il n'y a pas eu de combat. Mais c'est une victoire militaire, car les troupes russes ont été forcées de quitter la ville. Donc il y a eu une action de déception, une action d'offensive qui a fait reflouer les Russes. C'est pas
On a une raison pour laquelle, justement, là, on n'entend plus du tout Poutine.
Ah, pardon. Pourquoi on n'entend plus Poutine? Ben parce que Poutine va être... Enfin, ça va être très compliqué pour Poutine d'expliquer à sa population comment il a fait tomber... Enfin, comment il a perdu Kherson. Et puis, accessoirement, s'il s'exprime, il faudra bien qu'il dise... Quel est son objectif? La reconquête de Kherson? L'envoi de missiles pour se venger de la chute de Kherson? La défense de la Crimée?
Ou alors mettre de la tension en Europe? Parce qu'on ne comprend pas très bien exactement quel est en effet l'objectif de Poutine. Son objectif, c'est d'affaiblir aussi les démocraties quand même. Hein, c'est son principal.
Ou de laisser dans l'expectative les démocraties. Oui.
Voilà, donc si vous voulez, lui, il laisse pourrir la situation et ça l'arrange.
D'une phrase.
Ouais. Alors juste, en fait, la stratégie qui a été adoptée par la Russie, je pense, c'est la stratégie du un pas en arrière, deux pas en avant. Ils ont perdu une bataille, mais pour réattaquer plus tard, ils vont attaquer sur deux fronts. Ils vont utiliser les conditions climatiques de la guerre. Ils vont utiliser la diplomatie qui a déjà été amorcée avec la rencontre de Xi Jinping et Biden. Et de plus, il faut pas oublier que la Russie est un élément clé de l'organisation de la coopération de Shanghai à l'est. On parle de l'entente sino-russe.
Eh bien, on continuera d'en parler ici même. Merci Emmanuel Dupuis. Bon rétablissement.
Ah oui, j'en ai besoin.
Vous en avez besoin. Allez vous réchauffer là.
Ah, je peux pas.
Une bonne tisane ce soir avec du miel, non ?
J'ai mes étudiants.
Exactement. Nabila Itakache, le représentant de Renaissance sur le département du 93. Merci.
Merci Adil.
Et enfin, Jimmy Dalidou, le syndicaliste, le représentant de la CGT, mais aussi auteur. Merci.
Merci.
À la réalisation, c'était Anthony. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Bilal Nenman, 18-20-21. Vanessa, à partir de 21h. À demain avec autant de plaisir. N'allez pas vous étouffer, Emmanuel.
Non,
attention.
C'est virus capitaliste. Ouais,
attention.
Non, mais
et on ne lâche rien. À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.